Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En cette époque de l'année où les enfants s'émerveillent, à juste titre, des histoires qui leur sont contées dans les livres ou de vive voix, et à l'heure du Salon du Livre de la Jeunesse qui se tient actuellement à Montreuil, aux portes de Paris, en présence de 280 artistes, je vous propose aujourd'hui une émission spéciale avec un auteur et illustrateur dont l'œuvre n'a de cesse de réenchanter nos lectures, quel que soit notre âge, avec un goût certain pour les contes, puisque nombreux de ses albums se sont inspirés des récits les plus célèbres, du Petit Chaperon Rouge à Blanche-Neige, en passant par Alice au Pays des Merveilles, et que désormais dans une collection qu'il dirige chez Albin Michel, de nouvelles versions du Magicien d'Oz ou de Podane ou encore de la Reine des Neiges ont paru avec son travail, mais aussi celui d'autres dessinatrices et dessinateurs. Bonjour Benjamin Lacombe.
Bonjour.
Dans un instant, nous allons feuilleter avec vous votre nouveau livre « La petite sirène » d'après le texte d'Andersen, dans une nouvelle traduction du danois par Jean-Baptiste Courceau et avec vos images, vos tableaux. Mais pour commencer, je ne peux pas ne pas vous demander quel est ce lien si puissant qui vous unit au conte.
C'est une bonne question et c'est, comme toutes les bonnes questions, très difficile d'y répondre parce qu'il y a un lien très fort, je m'en rends compte, au fur et à mesure de mon parcours littéraire, que j'y reviens toujours et je me réenchante à chaque fois. C'est toujours un plaisir de découvrir des textes, de redécouvrir des souvenirs du passé parce qu'on est tous, en fait, confrontés au conte à un âge où on ne va pas en comprendre tous les sens et toutes les possibilités. Et du coup, ce sont des lectures qu'on redécouvre au fil de sa vie. Et quand je me mets à les illustrer, vraiment, j'ai ce bonheur de la découverte.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous racontait des contes quand vous étiez petit, Benjamin Lacombe?
Bien sûr, ma maman, comme je pense beaucoup. C'est avant tout elle. Et puis rapidement, elle m'a laissé les lire tout seul.
Est-ce que vous diriez que c'est votre façon de rester en enfance ou à l'inverse, une façon de ramener l'enfance dans le monde des adultes que nous sommes devenus ?
Un peu des deux, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les contes ne sont pas nécessairement faits pour les enfants. Je pense qu'on les a à tort en fait limités, mais je pense qu'effectivement une part d'enfance me ramène au conte puisque je les ai découverts étant enfant. Mais c'est vrai que je trouve que le prisme du conte, on parle de toute la société, et si ils deviennent ce que j'appelle plus encore que des contes, mais des classiques, c'est parce que précisément en fait les problématiques qu'ils soulèvent transcendent les époques.
Et c'est ce qu'on va voir immédiatement avec la petite sirène. Donc depuis 20 ans, sachant que vous avez à peine le double, soit 40 ans, vous vous réappropriez, Benjamin Lacombe, ces histoires légendaires et donc cette petite sirène, dans une perspective ici non pas de coller à la tradition, mais de révéler au contraire un élément très nouveau qui fait toute sa modernité, à savoir que cette jeune héroïne, mi-poisson, mi-humaine, n'est pas que cela. C'est une personne beaucoup plus subtile et ambiguë que ce que les spécialistes ne soulignaient pas jusqu'ici.
Ou n'ont pas voulu voir.
Alors que justement, il suffit de lire attentivement le texte original, de connaître aussi un peu le contexte, pour en avoir une idée. Mais je laisse encore planer le suspense de la révélation quelques instants. Et je voudrais vous demander, Benjamin Lacombe, si vous voulez bien nous rappeler en quelques lignes à nos auditrices et nos auditeurs qui ne l'ont plus en tête, quelle est l'histoire de la petite sirène?
Alors l'histoire de la petite sirène, c'est l'histoire d'un être qui rêve d'un ailleurs. Son père est donc le roi des océans, il a plusieurs filles, et à 15 ans, elle aura enfin le droit d'aller à la surface, découvrir ce monde dont elle n'a que des bribes et qui déjà lui donne tant d'envie en fait de découverte. Et à la découverte de ce monde, elle va découvrir un être humain dont elle va tomber follement amoureuse et elle va être prête à tous les sacrifices pour pouvoir être aimée de lui.
C'est donc une histoire qui, au final, en tout cas dans la version qu'on connaissait jusqu'ici, se finit mal, non ?
Ça se finit mal, mais ça s'explique aussi par l'auteur, Andersen. Quelque part, il fait vivre à ses personnages une douleur qu'il a vécue lui-même toute sa vie.
Alors vous qui avez réveillé tous ces autres personnages, ces héroïnes, ces héros des contes que j'ai cités en début d'émission, en quoi la petite sirène vous touche-t-elle plus particulièrement ? Qu'est-ce qu'elle a de différent des autres, selon vous, Benjamin Lacombe ?
Ce qu'elle a de différent, c'est vraiment un texte qu'on peut prendre de tas de façons. Parce que c'est vrai que c'est quand même un personnage qui va changer sa propre nature pour pouvoir être aimé d'un autre. Il va dépasser des océans, la mer, se retrouver face à une culture qu'il ne connaît pas, essayer de dialoguer, enfin, de se faire comprendre parce qu'il n'a pas la parole. Et c'est impressionnant et incroyable de se dire que ce personnage, pour la plupart de l'histoire, ne peut pas parler, en fait, et va s'exprimer qu'avec ses sentiments. Donc, pour un illustrateur, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est aussi fascinant, c'est cette ambiguïté, en fait, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé et qui m'a aussi intéressé des jeunes sans savoir vraiment pourquoi, sans savoir ce qui m'attirait, en fait, vers ce personnage double qui a une double identité humaine et de la mère, qui ne se sent bien dans aucun des deux mondes, finalement, parce qu'elle appartient un petit peu aux deux et tout à fait à aucun.
Est-ce qu'il y a un passage en particulier dans ce conte qui vous émeut plus qu'un autre ?
Il y a évidemment cette scène où chaque pas est une douleur et qui est extrêmement bien racontée, enfin décrite par Andersen avec des lames en fait qui lui tranchent la plante des pieds. Et en même temps qu'elle subit cette douleur, elle se rend compte que la voir comme ça danser, puisqu'en fait elle danse de douleur, fait plaisir au prince, alors elle va s'exécuter, continuer et feindre en fait de ne pas ressentir cette douleur et danser à chaque fois qu'elle veut l'amuser. Et cette idée du sacrifice comme ça et de cet amour pour lequel on est prêt un petit peu à tout, c'est quelque chose de très, d'à la fois très douloureux à lire et en même temps de très émouvant.
Le soleil n'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince et gravit la première marche de l'escalier en marbre rutilant. La lune brillait, nette et belle. La petite sirène but le philtre aussi fort que brûlant et eut la sensation qu'une épée à deux tranchants traversait son corps gracile. Elle s'évanouit aussitôt et resta étendue comme morte. Quand le soleil illumina la mer, elle se réveilla en éprouvant une douleur cuisante. Mais devant elle, le jeune prince, ravissant, fixait à ce point sur elle ses yeux noirs charbon qu'elle dut baisser les siens et se faisant découvrir que sa queue de poisson avait disparu, qu'elle était désormais pourvue de petits pieds blancs, les plus délicats que n'importe quelle fillette aurait aimé avoir. En revanche, elle était entièrement nue. Aussi s'enveloppa-t-elle dans sa longue toison de cheveux. Le prince lui demandant qui elle était et d'où elle venait, elle le regarda de ses yeux bleu foncé, saturés de douceur mais non moins de tourment, puisqu'elle ne pouvait pas parler. Il la prit par la main et la conduisit au château. Chaque pas, comme la sorcière l'en avait prévenu, lui donnait cette fois la sensation de marcher sur des pointes aiguisées et des couteaux acérés, ce qu'elle supportait bien volontiers. Et sans cesser de tenir la main du prince, elle pénétra dans le palais avec la légèreté d'une bulle. Et lui, comme les autres personnes présentes, s'étonnèrent de sa démarche aussi gracieuse que vaporeuse. On l'habilla d'élégants vêtements en soie et en mousseline. Au château, elle était la plus belle de toutes. Mais elle était muette, ne pouvait ni chanter, ni parler. De superbes esclaves vêtus d'or et de soie firent leur entrée pour chanter en l'honneur du prince et de ses parents. L'une chantait beaucoup mieux que les autres et reçut les applaudissements du prince ainsi qu'un sourire, ce qui attrista la petite sirène, car elle savait que son chant était autrefois nettement plus charmeur, encore plus enchanteur aussi, pensa-t-elle. Oh, si seulement il savait que pour être auprès de lui, j'ai dû donner ma voix et m'en priver pour l'éternité. Les esclaves exécutant à présent des danses sensuelles et voluptueuses au son d'une musique exaltante, la petite sirène leva ses beaux bras blancs, se mit sur la pointe des pieds et, de sa démarche gracieuse, sembla flotter au-dessus du plancher, dansa comme nul avant elle n'avait jamais dansé. À chaque mouvement, sa grâce était encore plus apparente et ses yeux encore plus expressifs. Il parlait au cœur avec plus de profondeur que le chant des esclaves. Toutes les personnes présentes étaient en extase devant elle, surtout le prince qui l'appela sa petite enfant trouvée. Elle dansait encore et encore, bien que chaque fois que son pied touche le sol, elle avait la sensation de marcher sur des couteaux acérés. Le prince lui dit qu'elle resterait à jamais auprès de lui. Elle eut même la permission de dormir sur un coussin de velours devant sa porte.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Benjamin Lacombe, auteur et illustrateur qui vient de publier « La petite sirène » aux éditions Albin Michel, d'après le conte de Hans Christian Andersen, dans une nouvelle traduction du danois de Jean-Baptiste Courceau, qui apporte dans ses commentaires une nouvelle perspective de lecture de cette histoire légendaire. Dans votre avant-propos, Benjamin Lacombe, vous dites que vous ne vous souvenez pas quand vous avez découvert La Petite Sirène, mais que vous vous rappelez en revanche de la version de Disney, tout en outrance, couleur et flamboyance. Je vous cite. Mais à quel moment avez-vous réalisé donc que cette héroïne était beaucoup plus subtile, complexe et ambiguë qu'on nous l'a laissé croire pendant 150 ans ?
Vraiment bien plus tardivement, évidemment. En fait, ça fait un moment que je voulais illustrer La Petite Sirène. Donc, j'ai été d'ailleurs aux sources, en fait, du conte, puisque j'ai d'abord illustré Ondine, il y a 10 ans maintenant, qui était une manière pour moi de commencer à me confronter à cet univers, parce que le texte de La Motte Fouquet a été, en fait, un des textes qui a inspiré Andersen. C'est une histoire longue, en fait, l'histoire de La Petite Sirène, qui s'étend sur plusieurs années, puisqu'il avait d'abord commencé par faire un autre texte qui s'appelait Agnette et l'homme de la mer, qui était un peu l'histoire inversée de La Petite Sirène, mais qui était déjà une lettre d'amour impossible. Donc je ressentais en fait dans ce personnage un peu plus qu'une juste une succession d'événements et ce côté fantastique de cet être poisson. Je sentais qu'il exprimait en fait beaucoup plus que simplement cette histoire. J'ai mis pas mal de temps à me rendre compte et puis je suis tombé sur une de ces fameuses gender studies d'Harvard qui traitait en fait d'Andersen plus largement et de la métaphore en fait qu'il y a à l'intérieur de ce texte, puisque assez, voilà, basiquement, si on l'explique, c'est quand même aussi l'histoire d'un être qui, pour être aimé d'un autre, va se couper la queue, perdre sa voix et donc devenir une femme. Et c'est vrai que lorsqu'on met ces trois phrases les unes derrière les autres, on se rend compte qu'on est en train de parler d'autre chose, en fait. On est en train de parler d'une identité, d'un corps qu'on doit se transformer pour finalement correspondre à l'identité qu'on veut avoir.
Donc vous êtes retourné à la version originale et vous avez demandé qu'elle soit traduite à nouveau, c'est ça ?
Alors, moi, j'avais du coup cette idée de me dire qu'il y avait plus dans ce texte, mais moi, je ne pratique pas le danois. J'avais vu aussi qu'il y avait un certain nombre de lettres d'Andersen. Je savais qu'on avait dit que, et souvent qu'il avait été dit que cette petite sirène était une lettre d'amour, mais je voulais retrouver les lettres. Et ça a été toute une enquête, parce qu'effectivement, il n'y en avait aucune trace en français, aucune trace en anglais, ou que des bribes. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse d'abord une traduction du texte et surtout qu'on mène l'enquête, en fait, qu'on essaye de trouver ces lettres qui auraient pu être à l'origine de ce livre.
Donc un travail dans les archives où en effet vous retrouvez une partie de la correspondance d'Andersen avec son ami Édouard, et grâce à cette nouvelle traduction, vous permettez en appareil critique de compléter cette version de La Petite Sirène. Et de fait, on se rend compte que ce n'est pas seulement la métaphore de l'adolescence que nous sommes en train de lire, qui, cela dit, est très réussie aussi, puisque l'on passe d'un monde à l'autre. Ce n'est pas seulement une parabole de l'amour contrarié entre deux personnes de classe sociale différente, parce que ça aussi, c'est dans le texte. Mais c'est surtout donc une réflexion, en effet, sur l'identité, sur le genre, avec ici un être assigné à son sexe, féminin, mais qui renonce aussi à ses atours, sa longue chevelure, sa voix cristalline, voire son hybridité animalo-humaine, pour assumer son désir pour un homme dont elle se sent semblable. En un mot, ici, c'est une relation homosexuelle taboue et qui donc, compte tenu de l'époque, doit tourner à l'échec. C'est cela, Benjamin Lacombe ?
En fait, c'est vraiment l'enquête qu'on a fait qui nous a conduit à cette idée. Parce qu'en vérité, comme je vous disais, avant, il y a eu Agnette et l'homme de la mer qui était une femme qui tombait amoureuse d'un triton. Et ce triton s'appelait Édouard Colin. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait.
Comme et le nom de l'ami
comme
d'Andersen.
Comme le nom, l'ami d'Andersen, en fait, c'était le fils de son mécène. Et donc, les lettres sont sans équivoque. C'est-à-dire, quand on les lit, on comprend très bien qu'il était amoureux, qu'il dit qu'il aurait aimé être une femme pour être aimé de lui. Donc, cette idée, en fait, de l'hybridité, de la transformation, est très claire dans les lettres. Et il y a des morceaux entiers de ces lettres qui se retrouvent dans le texte de La Petite Sirène. Texte qu'il décide et qu'il commence à écrire à l'annonce du mariage de Édouard Colin avec Henriette Thieberg, dont il va être mari, puisqu'évidemment, ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que c'était un amour à sens unique, un amour impossible. Et c'est de cela dont parle aussi ce livre, de cet amour absolu pour un être dont il n'y a pas la réciproque.
Et donc, c'est vrai que cette interprétation s'appuie sur ces documents de l'époque. Mais ce qu'il faut rajouter, et c'est pour ça que cet album a autant de valeur, et encore une fois, on n'a pas encore parlé de vos dessins, alors c'est dire qu'on est loin de dire à quel point c'est réussi, c'est que la fin du manuscrit a été biffée.
Bien sûr.
Ce qui veut dire... Et ici, on a non seulement la reproduction du manuscrit tel quel et on voit la double croix, mais on a également la traduction en français. Et dans cette fin, on se rend compte que Andersen laissait entendre la possibilité d'être accepté comme on est.
C'est ça.
Dans un autre monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est la censure de toutes ces années qui nous empêche de donner, de retrouver le premier sens que Andersen avait mis dans ce conte.
Ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est qu'il écrit à Édouard Colin que les mots les plus importants sont ceux qui sont biffés, parce qu'ils viennent directement du cœur à la plume. Et le fait, en fait, d'avoir biffé ces mots montre l'importance qu'ils avaient pour Andersen. Et ce que dévoile cette fin, c'est que quelque part, quand enfin il pourra être une âme, il pourra être accepté pour qui il est. C'est déchirant de lire ça, parce qu'il y avait cette morale quand même chrétienne qui est très présente à la fois dans son œuvre et dans ses lettres et donc dans toute sa vie, cette idée de dire qu'ici-bas, il n'avait pas le droit d'être heureux.
C'est ça.
Et c'est terrible parce que... Alors, on peut s'interroger, est-ce que s'il n'avait pas été empêché comme ça, il aurait produit tous ses contes ? Est-ce que s'il n'avait pas eu ce problème de corps, il aurait fait Le vilain petit canard qui traite de ça ? Est-ce que d'un être qui est mal perçu, qui est dans le mauvais corps ?
En raison des apparences.
En raison des apparences, est-ce qu'il aurait fait La Reine des Neiges qui traite aussi de ça, d'une certaine façon ? Et s'il n'avait pas été ce transfuge social, est-ce qu'il aurait écrit La petite fille aux allumettes ? Tout ça, voilà, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est effectivement combien cet empêchement a pu conduire, en tout cas, à créer cette œuvre et cette résonance, en fait, qu'elle a aujourd'hui.
Tout ça est absolument bouleversant. Et c'est là aussi que vos dessins prennent le relais, Benjamin Lacombe. Avec, pour commencer, les couleurs dont il faut absolument dire un mot. Le rose fluo, le bleu et le violet. Vous voulez bien nous expliquer ce que ces choix caractérisent ?
Alors, c'est des choix que j'ai faits de façon très, très, très appuyée, très marquée. C'est-à-dire, jamais j'aurais pu imaginer que j'utiliserais des couleurs comme ça, parce que ce rose fluo...
Ce n'est pas votre palette habituelle.
Ce n'est pas ma palette habituelle, loin de là. Mais je l'ai utilisé parce qu'il marquait aussi un genre, évidemment. C'est-à-dire ce rose qu'on a genré pour les petites filles, ce bleu qui est très profond, qu'on a aussi genré pour les petits garçons, et ce personnage, en fait, qui évolue entre les deux, qui a une queue violette, du mélange de ces deux couleurs. Donc, je voulais, par la couleur, en fait, parler et montrer aussi, parce que c'est à la fois ça et c'est aussi l'océan, l'iridescence, en fait, qu'on peut voir dans l'océan, ce rose qui est difficile à décrire, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un pintone fluo, donc il nous saute aux yeux. C'est une couleur qui n'est pas reproductible par les quatre couleurs, c'est-à-dire le cyan, le magenta, le jaune, le noir. C'est une couleur à part, en fait, qu'on est obligé d'ajouter à l'impression pour qu'elle puisse briller de cette façon. Donc c'était vraiment un choix graphique très 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 assumé dès le départ, et quand j'ai même peint les dessins avec de la gouache et de l'huile, j'ai aussi réservé en fait les parties où j'ai découvert comme ça ce pigment fluo que j'ai appliqué. Donc c'était vraiment un choix graphique pour donner à la fois cette ambiance de ce qu'on peut ressentir en fait quand on va dans les profondeurs, ces bleus très sourds, très profonds, qui vont très loin, qui sont des bleus de Prusse comme ça, qui sont voilà très forts, et ce rose qui brille en fait, qui est vraiment un rose fluo et qui amène comme ça cette lumière.
Et puis des silhouettes qui ne sont pas sexualisées. La petite sirène, on ne voit jamais sa poitrine. En fidélité au texte, vous l'habillez d'un costume d'homme, puisque quand elle devient totalement humaine et qu'elle est recueillie par le prince qui n'a pas compris encore qu'elle était la petite sirène qui elle-même, quelque temps auparavant, l'avait sauvée d'un naufrage, d'autant plus qu'elle a perdu sa voix, elle a dû sacrifier sa voix pour la cacher un peu, mais parce qu'il a envie d'être avec elle, donc il l'habille d'un costume d'homme. Et même le prince, j'ai envie de dire, il n'est pas hyper virilisé. Il est très beau, avec ses cheveux longs, avec... Lui aussi, il a quelque chose de la féminité. C'est aussi un être androgyne.
En tout cas, il a une certaine forme d'ambiguïté vis-à-vis de la sirène. Ça, c'est sûr. Et moi, en tant qu'illustrateur, je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que ce texte est représenté depuis 150 ans. Noir sur blanc, il est écrit. Il lui met un costume de page pour qu'il puisse l'accompagner partout, pour qu'elle puisse l'accompagner partout. Costume de page, c'est un costume d'homme. Et on ne la voit jamais représentée en homme. Personne ne l'a jamais fait. Jusque-là, c'est quand même fou. Et ce qui me touchait là-dedans aussi, c'est cette idée qu'elle est renvoyée à son identité première, qu'elle n'est pas, en fait, elle n'est pas perçue comme une femme par le prince, qui à la fois la garde tout près de lui, au seuil de sa chambre quand même, hein, parce qu'elle dort sur un coussin au seuil de sa chambre, mais en même temps, il ne l'invite pas dans son lit concrètement. Et il y a cette espèce d'ambiguïté, ce jeu un peu pervers entre lui et elle, cette tension en fait qu'il y a. C'est pour ça que j'ai voulu aussi un prince qui évolue dans la séduction, évolue aussi des deux côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, il a ses cheveux longs, il n'est pas... mais en même temps, il a quand même cette espèce de magnétisme, cette forme de virilité aussi, plus ambigu. Voilà, c'est un personnage qui lui aussi est plus... Les deux sont des personnages plus ambigus.
Sans doute à l'image de la relation qu'Andersen avait avec son ami Édouard.
En tout cas, qu'il aurait aimé pouvoir poursuivre de la même façon. Et de la même façon, ça n'a pas été possible. En tout cas, c'est sûr que lui, Andersen, s'était très clairement déclaré. Édouard a laissé cette situation comme ça, mais a quand même marqué de la distance. Il lui a même refusé le tutoiement tout du long de sa vie.
Et vous lui coupez les cheveux à la petite sirène? Et j'ai cru comprendre aussi que c'était pour montrer peut-être une ressemblance avec les portraits d'Andersen d'époque.
Alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment un choix que j'ai eu de lui faire vraiment la coiffure de son créateur, parce que quelque part, à la fois cette fin qu'il a biffée, qu'il était trop proche de lui, et à la fois aussi cette nature, c'est-à-dire qu'il a écrit à un moment très particulier de sa vie, et il écrit au critique Ingemann, pendant qu'il écrit ce livre, il sait qu'il est en train d'écrire son chef-d'œuvre, et il dit « Je souffre comme jamais, je souffre avec mes personnages ». Donc pour moi, la petite sirène, c'était lui. Il n'y avait aucun doute, et il fallait rappeler en fait cela graphiquement, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire la coiffure de son créateur.
Et vous aussi, vous souffrez avec vos personnages, Benjamin Lacombe?
Je pense que d'une certaine façon, quand on crée, on souffre toujours un petit peu, bien sûr. On se met toujours... en tout cas, si on fait une œuvre sincère, je pense que oui, on vit ce que vivent nos personnages.
D'ailleurs, vous l'écrivez aussi dans cet avant-propos, cette assignation au genre, devoir se conformer aux attentes des autres, de la société sans y parvenir, est un sentiment, dites-vous, que vous éprouvez depuis votre enfance et encore aujourd'hui ?
Bien sûr, c'est très difficile en fait de répondre, je pense, aux dictats de la société qui évolue, qui change, dont en fait on va toujours montrer un symbole de ce qu'on devrait être, une image de ce à quoi on devrait ressembler. Et souvent, en fait, quand on fait l'analyse de ce qu'on est réellement, on est nécessairement différent de cette image. Et c'est très très difficile de ne pas pouvoir répondre, en tout cas. Et ça, c'est à toute type de personne. Ça va être une femme qui va pas vouloir avoir d'enfants, ça va être effectivement des personnes qui vont aimer des personnes de même sexe, ça va être une couleur de peau, ça va être... En fait, on va toujours avoir quelque chose qui va faire qu'on va pas être, entre guillemets, dans une forme de norme. Mmh. C'est très difficile. Je pense que cette façon qu'on a de vouloir gommer les différences des uns des autres.
Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Benjamin Lacombe, et je fais une petite parenthèse. Vous parlez de couleur de peau. Il me semble qu'il y a quelques années, ou assez récemment d'ailleurs, il y a eu toute une polémique autour d'une nouvelle version de la petite sirène en dessin animé, parce qu'elle serait noire.
Elle va sortir. C'est le film qui va sortir au printemps, qui est l'adaptation de l'adaptation qu'avait fait Disney en dessin animé. Ils le réadaptent en film d'animation live et ils ont choisi une comédienne à la peau noire pour interpréter le rôle. J'ai été abasourdi en fait par cette polémique qui n'a aucun sens. En fait, on est en train de parler d'une sirène quand même. C'est-à-dire qu'elle a la couleur de peau qu'elle a envie d'avoir. Elle pourrait être de
vert,
toute couleur,
jaune.
Violette, jaune. Je veux dire, qui pourrait attester qu'une sirène, parce que c'est quand même ce que viennent dire ces réactionnaires, disant, mais la petite sirène a toujours eu la peau blanche, elle a toujours été... Non, ben alors, ma foi, il faut vraiment... Moi, en tout cas, je n'en ai pas vu. Je pense que ces assignations, en fait, à la couleur de peau, au genre, aux préférences sexuelles, c'est quelque chose qui est en train de se gommer. Et je trouve que c'est une très bonne chose, en fait. Je pense que ça évitera beaucoup, beaucoup de conflits, beaucoup de problématiques. Je pense que si chacun s'acceptait plus comme il est et n'essayait pas de se conformer à des dictats, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de névroses en moins.
Et justement, Benjamin Lacombe, vous qui les rencontrez souvent, ces adolescents, collégiens, lycéens, et là, encore plus dans le cadre du Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil, où vous allez beaucoup signer et échanger avec ces jeunes gens, vous avez l'impression qu'en effet, cette petite sirène peut devenir un repère, en tout cas, ou un livre d'apprentissage, justement, pour des jeunes gens qui sont encore peut-être justement sous le joug des assignations et qui se disent qu'avec la petite sirène, compte tenu de la façon dont vous la présentez, c'est-à-dire sans genre, peuvent se retrouver ou en tout cas avoir leur identité.
Je pense que c'est un lourd poids à porter de penser qu'un livre... c'est pas un livre médicament. Je pense que les livres, c'est pas des médicaments. Je pense que les œuvres de littérature sont des portes, en fait, vers un ailleurs, vers une des possibles. Et je pense que représenter, en fait... comme ça, cette sirène, parmi toutes les autres représentations qu'on a, parce qu'il y en a plein, il en sort tous les mois, eh bien, c'est une nouvelle possibilité. Effectivement, je pense qu'en tout cas, il va, j'espère, y avoir des lecteurs qui vont l'accepter et l'apprécier et se dire que, ah ben oui, 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 c'est possible. Et également aussi, c'est possible de vivre selon des normes différentes et malgré tout, par exemple, je parle d'Andersen, d'écrire ces œuvres-là, qu'elles résonnent encore 150 ans après. Et ça, je trouve que c'est un message que je trouve très beau, parce que c'est aussi ça, la vertu de ce livre, c'est de montrer que cette personne qui a été empêchée, dont quelque part les prédispositions ou les attirances ne correspondaient pas au dogme qu'il avait, n'empêche qu'il a quand même créé une œuvre qui a transcendé les genres, les familles, les temps. Et ça, je trouve que c'est un beau message quand même.
Un message magnifique, vous voulez dire. Merci beaucoup, Benjamin Lacombe.
Merci à vous.
D'être venu nous faire redécouvrir la petite sirène dans cette magnifique édition illustrée, commentée, vraiment un cadeau de Noël avant l'heure. Et un cadeau pour tous les enfants qui vont vous retrouver au Salon du Livre de la
Jeunesse. Et pas seulement les enfants.
Et pas seulement les enfants. Oui, parce que vous avez bien remarqué, je ne suis plus une enfant. Et je suis particulièrement enthousiaste. Merci encore. Le livre a paru aux éditions Albin Michel.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.